Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow, but your fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shrew. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire, I'll better run like Pericles.
Bonsoir, il est... c'est l'heure de Canu Info. Il est 19h, passé de 4 minutes.
Ce soir, on va parler de la Russie où une membre des Poussières et Hottes entame une grève de la faim.
On poursuivra avec une info sur un accident nucléaire évité de peu en Allemagne.
Attention, attention, c'est la panique au Venezuela.
Ensuite, en Afrique du Sud, toujours beaucoup de tensions avec les patrons.
On va revenir sur là où les nuits d'émeutes à Stockholm.
Plus tard, on apprendra que Dominique était vénère.
On aura une petite chronique d'un acharnement judiciaire.
Ensuite, à propos de la répression de la prostitution, on vous lira un communiqué de presse du Stras.
Ensuite, on va vous parler du décret sur les collusions entre labos et médecins.
Pour enfin terminer les infos avec le coup de foudre entre les supporters lyonnais et marseillais.
Puis, on passera à la météo.
Et à un petit agenda pour finir. Alors en Russie, Maria Alekhina, qui est une des deux jeunes femmes du groupe contestataire Pussy Riot, qui est emprisonnée dans une prison de l'Oural, a annoncé mercredi 22 qu'elle entamait, donc c'est-à-dire aujourd'hui, qu'elle entamait une grève de la faim. Et parce qu'en fait, on lui a refusé d'être présente à une audience sur sa demande de libération anticipée. Donc ce qu'elle a dit, c'est « Je déclare une grève de la faim et j'insiste sur ma participation à l'audience. J'interdis à mes avocats de participer au débat jusqu'à ce qu'on m'amène au tribunal. » Et ça, elle l'a déclaré depuis sa colonie pénitentiaire par liaison vidéo. Ouais, parce que c'est une colonie pénitentiaire, quoi, un camp de travail, en fait. Donc, en fait, là, le tribunal où elle devait être jugée, qui est dans une ville de l'Oural qui s'appelle Berezniki, a ajourné les débats jusqu'à jeudi. Et l'avocate de cette jeune femme, elle s'est indignée que le tribunal refuse sa présence à l'audience. Et elle a dit que d'habitude, les intéressés y participent aux audiences pour examiner les demandes de libération anticipée. Et elle ne sait pas pourquoi le tribunal a pris une telle décision. Et voilà, bon, elle défend un petit peu sa présence. Donc Alekhina, Maria Alekhina, elle dénonce une violation de ses droits et elle a demandé la révocation du juge Mikhail Tchagalov qui préside l'audience. Elle a aussi demandé la révocation du procureur, mais ces deux requêtes, elles ont été rejetées. Et en fait, fin avril, il y avait une deuxième jeune femme des Pussy Riot qui purge une peine des 2 ans de camp qui, pareil, s'était vue refuser une demande de libération anticipée. Donc cette toute jeune femme-là, elle s'appelle Nadeja Tolokonikova. Et du coup, le tribunal de la région où elle purge sa peine en Mordovie avait estimé qu'elle ne s'était pas repentie et qu'elle avait eu des réprimandes pendant sa détention. Voilà, donc en fait, pour mémoire, les femmes de Pussy Riot, elles avaient été arrêtées en février 2012 dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou, où elles avaient chanté une prière punk. Elles demandaient à la Sainte Vierge de chasser Poutine pour dénoncer une collusion entre l'église orthodoxe et le pouvoir. Et donc, c'est là qu'elles avaient été condamnées pour hooliganisme, incitation à la haine religieuse. Et en fait, il n'y avait qu'une personne qui avait été libérée en octobre 2012 suite au procès en appel. Donc, bon, en fait, elles ont été soutenues par plein de gens, plein de stars. Il y a eu toute une mobilisation. Et apparemment, cette affaire-là, elle a profondément divisé la société en Russie. Et le groupe est un peu devenu un symbole de protestation contre le régime du président Poutine. Et donc, qui est au Kremlin là, pour un troisième mandat de président. Et en fait, qui est accusé par toute son opposition d'atteinte aux libertés. Et donc, du coup, ça divise fortement la société russe, mais il y a quand même plus de la moitié des Russes, 56%, qui estiment que la peine de 2 ans de camp infligée aux jeunes femmes des Pussy Riot, elle est appropriée. contre 26% qui la juge excessive. Donc, profondément divisée, mais pas à part égale, quoi. Et en fait, là, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y a les députés russes qui ont voté en deuxième lecture, mardi, donc hier, un texte de loi qui réprime les offenses aux sentiments religieux des croyants. Et du coup, les contrevenants, ils seront passibles d'une peine qui va jusqu'à 3 ans de prison et d'une amende qui peut atteindre 300 000 roubles, ça fait 7 400 euros. Et donc voilà, et en fait, réprimée à l'époque soviétique, l'église orthodoxe russe, elle est devenue en deux décennies, et surtout depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, une institution qui est de plus en plus puissante et du coup qui permet comme ça qu'il y ait des lois super craignos qui passent à ce propos-là.
Alors, je vais parler maintenant de l'Allemagne où il y a eu un accident nucléaire qui a été évité, heureusement. Donc, ça s'est passé, en fait, ça date un peu du 1er mai dernier. Il y a un navire dans le port d'Hambourg qui a pris feu. Voilà, et c'est seulement 2 semaines plus tard, donc la semaine dernière, le 14 mai, que les autorités ont révélé en fait ce que contenaient les cales du cargo, qui est un cargo américain qui s'appelle l'Atlantic Cartier. Et il était chargé de voitures, d'où le feu est parti, mais de 33 conteneurs de matériaux nucléaires et d'explosifs. Dont
ils ont mélangé les deux là.
Ouais. Okay. Dont 9 tonnes d'uranium et près de 4 tonnes de munitions. Donc c'était un bateau assez détonnant, quoi.
Convoi spécial.
Il faut être con quand même.
Ouais. Et du coup, donc, heureusement, ce jour-là, 300 pompiers se sont démenés pour arrêter les flammes et dégager les 33 conteneurs dangereux avant de parvenir au bout de 15 heures à éteindre l'incendie. Et donc ça a été quand même une catastrophe évitée de peu, d'autant que des milliers de personnes étaient réunies pour une grosse fête protestante qui avait lieu dans les rues de Hambourg, et sachant que aussi Hambourg c'est la deuxième ville de l'Allemagne, et donc ça la fout mal que dans le port d'Hambourg circulent des marchandises comme ça, sachant que voilà, c'est pas une minuscule ville où personne n'habite, etc. Et quoi dire d'autre, je me suis perdue. Voilà, c'est le mélange en fait qui était associé sur le bateau, donc uranium explosif et éthanol, dont 18 tonnes étaient également à bord. Et donc la question, c'est comment en fait les autorités de sûreté ont pu laisser naviguer un tel bateau avec une de telles marchandises. Et donc ce cargo venait des États-Unis et partait en Italie, et le reste du convoi devait se faire sur la terre. Voilà.
Eh ben, on va partir au Venezuela, parce que alors là, attendez, le pays fait face à de dures pénuries, et c'est pas une petite pénurie. L'Assemblée vénézuélienne réunit exceptionnellement hier pour débloquer un budget spécial de 79 millions de dollars pour faire importer en masse du papier toilette.
Oh là là, mais c'est la merde.
Aussi, je savais que ça allait être bref, avec plein de jeux de mots, avec plein d'autres produits d'hygiène. Alors bon, les raisons de ces de cette pénurie, ce serait dû à une inflation. Bon, classique. Moi, j'ai pas trop compris hein, pourquoi, mais ça avait l'air normal pour tout le monde. Et alors, bon, quand même, l'équipe du Canu Info s'est démunie pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour se procurer le détail de ce budget. Et attention, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est le vrai budget, quoi. Alors, 39 millions de rouleaux de papier cul vont être achetés, 50 millions de serviettes hygiéniques, 10 millions de pains de savon, 17 millions de couches jetables et 3 millions de tubes de dentifrice.
Et combien vont-ils être revendus?
Après, écoutant, j'espère, quand même. Voilà, Ça craint au Venezuela quand même. Depuis la mort de Chavez, il y a tout qui part en couille.
Et ben en Afrique du Sud, c'est tendu dans les mines, dans les usines, comme souvent. Et donc, je vais commencer une première brève qui parle de l'usine Mercedes d'East London. Donc, plus d'un millier d'ouvriers de cette usine se sont mis en grève sauvage vendredi 17 mai. Et cette grève a éclaté après une semaine de tension avec la direction pendant laquelle les travailleurs refusaient les heures supplémentaires. Et donc les travailleurs protestent contre un projet de la direction qui externaliserait la logistique, menaçant ainsi 300 emplois sur les 1600 de l'usine. Mais c'est pas tout, parce qu'ils ont refusé les heures supplémentaires, parce que en fait la direction a changé. Donc c'est un Allemand, Anhelm Mittelbach, qui est le nouveau directeur et qui se décrit lui-même comme, je cite, un soldat de l'Allemagne à qui les travailleurs doivent obéir. Et du coup, en fait, ce directeur complètement fou multiplie les actes d'autoritarisme. Ainsi, il a ordonné aux ouvriers de l'atelier de peinture de retirer leurs salopettes lorsqu'ils devaient quitter l'atelier pour éviter qu'ils ramènent de la poussière dans les autres parties de l'usine. Vous voyez, genre de truc complètement débile. Donc, en solidarité avec leurs collègues de la peinture, tous les ouvriers de l'usine ont alors décidé de refuser les heures supplémentaires. Voilà. Et donc, après une nouvelle provocation de la direction mercredi, donc les ouvriers se sont mis en grève vendredi, bloquant donc la production de l'usine. Et donc, ce directeur a menacé de porter plainte lundi si l'ouvrier ne reprenait pas le travail. Et les ouvriers leur ont bien rappelé qu'un accord d'entreprise datant de 1989 qui permet aux travailleurs de se mettre en grève 72 heures sans préavis syndical. Voilà, et sinon, dans une mine de chrome, ce sont 10 mineurs qui travaillent donc dans cette mine qui appartient à un groupe chimique allemand Lanxess, qui ont été hospitalisés mardi à la suite d'affrontements entre des grévistes et des agents de sécurité du site. Donc les gardiens ont tiré des balles en caoutchouc contre ces 10 salariés en grève. Et donc la direction de l'entreprise, on le toupait d'avoir mis un communiqué public qui contredisait le bilan dressé par la police. Parce que quand même, vous voyez, c'est un bilan de 10 personnes blessées qui a été fait par la police, qui est contredit par la direction en disant qu'il y avait seulement trois personnes qui avaient été blessées dans les affrontements. Et sinon, le syndicat national de salariés de la métallurgie, donc le NUMSA, toujours en Afrique du Sud, demande une revalorisation des salaires. Donc c'est un syndicat qui est fort de 230 000 membres et qui demande 20% d'augmentation des salaires. Les salariés ne vont pas avoir d'autre choix que de descendre dans la rue, puisque les dirigeants du secteur automobile ont jugé irrecevables les dernières revendications et ce qui semble présager donc de futures confrontations, sachant pourquoi le syndicat a demandé ça en ce moment, c'est que l'accord triennal sur les salaires expire à la fin du mois de juin. Donc voilà, ça présage de pas mal de grèves futures. Donc depuis dimanche soir, il y a des nuits d'émeute à Stockholm, en Suède. Donc ça se passe dans le quartier d'Osby. Depuis la mort d'un homme de 69 ans qui a été abattu par la police donc ce dimanche, alors qu'il menaçait plusieurs agents d'une machette. Donc des voitures ont été incendiées, des boutiques et des écoles détruites, des policiers et des pompiers attaqués. Donc ce quartier de Ousbi, c'est un quartier pauvre qui a été construit au début des années 70, où 12 000 personnes vivent et donc 80% des personnes sont issues de l'immigration. Donc dimanche, les affrontements ont commencé dans ce quartier et se sont propagés au fur et à mesure à d'autres quartiers de Stockholm. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis 2010, l'extrême droite est rentrée au Parlement en Suède. Et donc il y a dans les débats publics beaucoup de questions autour de l'immigration qui sont présentes. Et d'une manière très malheureuse et très raciste. Et lundi, des militants locaux du quartier de Ousby ont organisé une conférence de presse et déclaré que la police les avait traités, je cite, de vagabonds, de singes et de nègres. Sans commentaire. That's suicide like Annie and Cleopatra. Timberline, she was a modern day Bridget Jones. Love's lane was lost, a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner.
La semaine dernière, le 17 mai, le jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, il y a le Portugal qui a adopté une loi qui permet l'adoption pour les couples du même sexe. Mais nous, en France, c'est pas pareil. Nous, en France, on a quoi ? On a que Dominique est vénère et que Dominique est tellement vénère qu'il s'est tiré une balle de pistolet automatique dans la bouche en plein jour devant l'hôtel de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ça se passait hier. Ça se passait hier, hein, ouais, c'est ça. Vous avez dû en entendre parler. Bon, bah voilà. Il n'était pas content. Et il a dit qu'il faudrait certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Et il a dit, parce que ça, il l'a écrit sur son blog mardi, quelques heures avant de se donner la mort. Et du coup, il a aussi dit « Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes. » Bon, ben voilà, en fait, c'était un idéologue d'extrême droite. Et il était contre la loi qui ouvre l'union et l'adoption aux couples de même sexe. Je vous passe tous les commentaires de tous les politiciens qui... non mais quand même en gros bon Marine Le Pen elle trouve que quand même elle a du respect, son geste est super politique, c'est une tentative pour réveiller le peuple de France. Non, en fait je peux pas vous les passer les commentaires, je vous l'ai dit. Et mais elle ajoute quand même Marine Le Pen qu'il n'en demeure pas moins que c'est dans la vie et l'espérance que la France se redressera et se sauvera. Bruno Gollnisch, il y voit une protestation contre la décadence de notre société. Bon, voilà, en fait, non, en fait, on arrête. Et en fait, ce qui est un petit peu intéressant, c'est de voir qui c'est ce Dominique Vénère. En fait, on le connaît pas forcément, mais il a quand même super influencé les mouvements d'extrême droite. Donc c'était il a fait la guerre d'Algérie. Il a renoncé à l'activisme au milieu des années 70. Et en fait, par contre, ouais.
Par rapport à la guerre d'Algérie, il était volontaire pour aller en Algérie et il a plutôt fait partie de l'OAS aussi.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Et ben oui. Après. J'ai ça un peu plus tard dans ma petite biographie, mais en fait, là, lui, il parlait beaucoup ces derniers temps. Bon, il se définissait comme un historien méditatif. Bon, bah, faites gaffe avec la méditation quand même. Enfin, faut pas en abuser. Et en fait, il évoquait sa fascination pour des écrivains comme qui se sont donné la mort en fait, comme Henri de Monterland ou Yukio Mishima, etc., etc. Donc, il délirait un peu là-dessus depuis quelques temps. Et il avait laissé une lettre à ses amis de Radio Courtoisie. Je vous jure, c'est pas une blague. Il avait donc écrit une lettre à ses amis de Radio Courtoisie et elle a été lue par un autre militant d'extrême droite qui s'appelle Bernard Lugan. Et voilà, où là-dedans il raconte qu'il se sentait le devoir d'agir tant qu'il en avait encore la force, qu'il veut se sacrifier, il voulait se sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. Enfin, et en gros, mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort pour réveiller les consciences assoupies. Je défends l'identité de tous les peuples chez eux. Je m'insurge contre le crime visant au remplacement de nos populations. Bon, ça, le remplacement de nos populations, c'est clairement l'immigration, en fait. Et en fait, il a écrit un post de blog à l'attention un peu des gens qui vont faire la manif le 26 mai, parce que là, dimanche, il y a une manif encore des anti-mariages pour tous. Son post de blog, il est intitulé « La manif du 26 mai et Heidegger ». Bon, je sais pas, tu vois, j'imagine qu'il fait des rapprochements philosophiques ou etc. Mais il explique que les manifestants, donc voilà. Il avait fondé, ce gars, Jeune Nation, en 54. Et Jeune Nation a été dissous en 58. Bon, Jeune Nation était à la pointe du combat pour l'Algérie française. C'est un mouvement qui a été dissous en 58 et les militants, ensuite, ils ont rejoint l'OAS. Et Dominique Vénère, il avait été incarcéré à cette époque. Et en 63, à sa sortie de prison, il avait fondé le mouvement Europe Action. Et c'est un mouvement qui a eu une influence assez forte sur la Fédération des étudiants nationalistes et qui était une fédération de laquelle a émergé le mouvement Occident, en fait. Et donc lui, il avait beaucoup d'influence à cette époque sur des futurs cadres de l'extrême droite des années 60, parmi lesquels Alain Madelin ou encore Gérard Longuet. Et bon, après je vous passe un peu tous ces délires païens, etc., etc. Mais quand même, il a un peu des délires païens, mais il dit quand même que le christianisme, c'est pas une religion identitaire, mais c'est une religion universaliste, hein, donc quand même, histoire que tout le reste du monde soit bien au courant. Et du coup, voilà. Sa pensée, elle a pas mal essaimé dans le mouvement, entre autres par le mouvement scout Europe Jeunesse. Et aujourd'hui, c'est le bloc identitaire qui se réclame de Dominique Vénère. Donc voilà, c'est voilà le beau monsieur qui s'est flingué hier à Notre-Dame.
Et puis pour petit pied de nez et anecdote de Vénère. Donc il y a aujourd'hui une féministe des Femen qui s'est exhibée du coup seins nus et une arme factice à la bouche devant l'hôtel de Notre-Dame de Paris. Donc son buste était recouvert de l'inscription « Que le fascisme aille en enfer ». Et elle a donc braqué une arme et l'a ensuite portée à la bouche, mimant le geste de cet écrivain. Voilà.
Alors, on va revenir sur un événement judiciaire là, qui s'est passé il y a quelques temps. Alors, pour rappel des faits, en 2004, il y a Abderrahim El Jarbri et Abdelkader Azimani qui sont condamnés à 20 ans de réclusion pour un meurtre commis en 1997. Les deux personnes ont nié du début jusqu'à la fin de la procédure leur implication dans ce meurtre. Et c'est seulement le 15 mai dernier que la Cour de révision de Paris a annulé leur condamnation, car une personne avec son ADN a été confondue et cette personne a avoué. Ils ont quand même passé plus de 13 ans en prison pour rien. Mais pour Abderrahim, son combat continue, car en même temps que sa condamnation, le juge lui avait refilé une interdiction définitive du territoire français. Cette interdiction était bien entendu suspendue le temps qu'il purge sa peine, sauf que, comme la Cour de révision a annulé sa condamnation, l'interdiction du territoire est donc de nouveau activée. Voilà, le vendredi 17 mai, il se rend, c'est-à-dire 2 jours après qu'il était plutôt content d'avoir été innocenté, il se rend à la préfecture pour régulariser cette situation, pour pouvoir partir quelques jours pour aller voir sa famille dans son pays natal et pour pouvoir se rendre aussi sur la tombe de son père qui est mort pendant que lui était en détention. Et ben, dans une telle situation où une personne se fait condamner à tort pendant 20 ans, enfin, se fait condamner à tort à 20 ans de prison, elle en passe 13 derrière les barreaux, pardon, elle se fait interdire de territoire à cause de sa condamnation, et ben, quand cette personne se rend à la préfecture pour leur demander de pouvoir aller voir la tombe de son père et sa famille, la réponse est « ce voyage sera sans retour, monsieur ». Mais Étienne Iragne, directeur adjoint à l'immigration de la préfecture, nie tout acharnement. Il nous dit La préfecture n'a jamais demandé cette expulsion. D'ailleurs, nous lui renouvelons régulièrement son récépissé de séjour. Cependant, la justice avait prononcé une peine en 1994. Nous la respectons. Donc la peine dont il parle, c'est pas la peine d'emprisonnement, mais c'est bien l'interdiction du territoire. En gros, ce type nous dit que c'est pas nous qui avons prononcé l'interdiction, c'est la justice, mais quand même, on compte bien la faire appliquer. Eh ben, ces avocats ont envoyé un courrier au duo Valls-Taubira pour leur demander d'annuler cette décision. Ils précisent quand même que quand ce fameux directeur de l'immigration là, a dit qu'il renouvelle régulièrement les récépissés, c'est quand même avec un certain acharnement de la part de ces avocats qui doivent à chaque renouvellement de récépissés, parce qu'ils renouvellent les récépissés de des récépissés très courts quand même, et ils doivent à chaque fois acharner la préfecture au téléphone pour leur dire... Bon, quand même, voilà la situation de cette personne. Donnez-lui son récépissé, arrêtez-lui refuser tout le temps. On espère que la lettre des avocats vont marcher, que cette personne se fera sauter son interdiction du territoire. Wise is the man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay pool. Some rise by sin and by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, which to your classrooms. Speak eloquent though I am resident to the green.
Alors, on voulait vous lire un communiqué de presse du STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe, qui s'intitule « Nous n'écartons pas les cuisses pour enrichir Colomb le macro ». C'est beau. C'est un communiqué qui date du 15 mai. On est un peu à la bourre, on aurait dû vous le lire la semaine dernière. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux mois, en fait, depuis fin mars à peu près, il y a une répression très très forte sur les prostituées lyonnaises, avec les services de police qui sont super présents, et puis des camionnettes qui sont emmenées à la fourrière, etc. etc. Et du coup, les personnes, elles n'en peuvent plus, donc elles ont rédigé un communiqué de presse avec le STRAS, qu'on va vous lire. Malgré nos incessantes dénonciations, la répression à Lyon s'empire jour après jour. Toute la journée, toute la nuit, les services de police du 7e arrondissement nous harcèlent et embarquent nos camionnettes à la fourrière. Selon ces mêmes services, un service devrait même être spécialement créé afin de pouvoir accéder à la fourrière, y compris durant ces heures de fermeture nocturne. Parce que nous ne pouvions plus assumer les frais d'une telle répression, 35 euros d'amende plus 136 euros pour frais de mise en fourrière, nombre d'entre nous sommes résignés à travailler à pied. Mais à pied ou en camionnette, une pute est toujours une pute de trop pour la ville de Lyon, qui nous harcèle désormais pour racolage. Les villes adjacentes, à l'exemple de Pernay, à l'exemple de Chasse-sur-Rhône, ou plutôt Chasse-aux-Putes-sur-Rhône, ont également mis en place de tels arrêtés anti-camionnettes. Sommes-nous condamnés à disparaître ? Nous en avons marre de cette hypocrisie, marre de ce gouvernement qui ne fait que parler de nous comme de pauvres victimes à aider, mais dont la seule action en notre faveur consiste à se faire du fric sur notre dos. Marre de ce gouvernement qui nous parle de sauver l'emploi, mais dont les priorités semblent plutôt être de priver des travailleuses de leurs revenus. Depuis 5 ans nous résistons, depuis 5 ans nos passes ne suffisent même pas à payer nos amendes. Si l'État veut vraiment lutter contre le proxénétisme, qu'il commence donc par destituer de leurs fonctions ses représentants lyonnais. Nous exigeons l'arrêt de la répression qui s'abat sur les travailleuses lyonnaises. Et voilà. Et ça y est, c'est dit. Colomb est un macro. Irrelevant, call it urban, call it street, a rose by any other name's more just as sweet. Spit so hard, but I'm smart at the bar, come through with a Union Jack full of yard. Ah mais c'est encore à moi.
Oui.
C'est encore à moi sur la collusion entre les labos et les médecins. Alors oui, c'était simplement pour vous dire que là il y a eu un décret qui a été voté hier qui s'appelle le Sunshine Act. On ne sait pas pourquoi il a un nom anglais, mais ça doit être pour faire bien. Et en fait, il crée une obligation de publicité des liens entre les entreprises de produits de santé et les entreprises de produits cosmétiques et les professionnels de santé. Donc, c'est le ministre de la Santé qui a voulu ce texte et du coup, c'est pour que ça marque un peu une avancée en matière de transparence et de prévention des conflits d'intérêts. Donc, ainsi, alors c'est quand même assez fou, ça va quand même assez loin, mais sera rendu public tout avantage d'une valeur supérieure ou égale à 10 euros.
Ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire que, par exemple, s'il y a un médecin qui a des avantages par le biais d'un labo, eh ben, ça sera dit et rendu public. Et du coup, comme c'est un avantage à partir de 10 euros, ça peut être un repas, une invitation, un livre, etc. Et du coup, si ça se fait en vrai, c'est énorme. Après, si ça se fait, si c'est accessible, parce que du coup, on sait que les médecins, ils sont visités. Il y a des visiteurs commerciaux qui viennent les voir, qui leur vendent les produits de tel ou tel labo pharmaceutique. Ils ont toujours plein d'avantages, etc. Et que ça les pousse à prescrire tel ou tel truc. Ça, c'est pour le petit généraliste ou le médecin de cabinet de base. Mais après, il y a toutes les relations différentes dans des instances... Donc on peut imaginer sur des trucs qui vont pas juste à des petits cadeaux, mais sur des gros cadeaux pour que y ait des décisions médicales qui soient prises de prescrire tel type d'examen ou tel type de traitement, etc. Donc c'est un peu énorme quand même ce truc-là. Et du coup, ça devrait être rendu public et ça serait centralisé sur un site internet qui serait public. Et du coup, dans l'attente de la mise en place de ce site internet, les données elles seront publiées sur les sites des ordres professionnels qui sont concernés et sur les sites des entreprises. Et le texte, il rentrera en vigueur jeudi. Et il y aura une circulaire d'interprétation qui va être publiée dans les prochains jours. Donc pour le coup, putain, un truc bien quoi. Donc voilà, on vous le dit quand même.
Cette rencontre est un hasard malheureux. Hier après-midi, les Bad Gones remontent vers Lyon après l'annulation de leur match à Nice. À la barrière de péage de Bolène, ils tombent alors sur deux bus marseillais, les South Winners, en route vers Saint-Étienne.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain?
La scène est violente. Les supporters combattent les forces de l'ordre sur une bretelle de l'autoroute A7 en plein après-midi. Au milieu, des automobilistes pris au piège. Aveuglés par leurs excès, Marseillais et Lyonnais s'affrontent à coups de batte de baseball, de barres de fer, de fumigène et de canettes de bière. Des dizaines de gendarmes tentent alors de les calmer, mais des renforts de police sont appelés, car plusieurs d'entre eux sont fortement alcoolisés. Dans la cohue, un fan lyonnais est percuté par un bus marseillais.
Ils se sont cachés dans un grand champ de plaie, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain.
Un déferlement de violence, j'ai d'un extincteur, de fumigène et d'objets en tout genre, batte de baseball et barres de fer à la main pour quelques-uns, ces supporters lyonnais et marseillais semblent avoir perdu la raison. Sous la pluie battante, l'affrontement se déroule en plein milieu de la route, juste au niveau du péage de Bolène, sur l'autoroute A7.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard,
au bord du matin, sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le
Nous arrivons à la fin de ce journal et c'est l'heure de la météo. Alors bon, loin de moi l'idée de vous foutre le bourdon, mais la situation exceptionnelle que nous connaissons ces dernières semaines me pousse à vous dire la vérité. Je suis allé personnellement interviewer un expert en météorologie pour qu'il nous confirme que notre ressenti d'un printemps pourri est scientifiquement prouvé.
Depuis le début de l'année et depuis le début du printemps, nous connaissons une succession d'épisodes pluvieux et un temps surtout très gris sur une grande partie est de la France. Donc le ressenti d'un printemps pourri est justifié. Et à ça s'ajoute une absence de période de chaleur durable avec un déficit de température de l'ordre de 1 à 2 degrés sur une bonne moitié nord. Donc on peut dire que ce printemps est l'un des pires de ces 20-25 dernières années. Au niveau de l'ensoleillement sur le flanc est du pays, on bat des records pour un printemps. Par exemple, des villes comme Mulhouse sont en train de connaître l'un des printemps les plus gris depuis qu'on fait des mesures. Autre constat, c'est sur la Côte d'Azur, où au niveau de la pluviométrie, on bat les records de 1971. Donc à Nice, par exemple, il est tombé 2,8 fois la normale d'un printemps. Les prévisions pour la fin du mois de mai sont relativement pessimistes, puisqu'on n'entrevoit pas un déblocage de la situation. On va rester sous l'influence de la fraîcheur et de l'humidité, donc probablement jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, à partir du mois de juin, les choses peuvent bouger, mais il n'y a pas d'indicateur solide pour l'instant pour être aussi bien optimiste que pessimiste.
Voilà. Et ben alors, je peux vous le dire, si vous n'avez pas tout compris, hein, ne vous attendez à rien d'ici la fin du mois. Bon, mais regardons les choses sous un autre angle, un peu plus positif. Bon, déjà, ça veut dire que peut-être qu'il nous reste juste 2 semaines de temps pourri, et peut-être qu'au mois de juin, le temps où le soleil va se lever et qu'il fera un peu plus beau.
Mais oui, c'est sûr.
On espère en tout cas. Mais aussi, quand même, quand on a une telle météo, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Eh ben, ça permet de combler beaucoup de blancs dans beaucoup de conversations. C'est-à-dire, quand tu te fais chier avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dis ? En même temps, t'as vu ce temps pourri, nanana. Bon, eh ben, croyez-moi, avec ce qui arrive, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas savoir quoi vous raconter. Jeudi 23, vous ne vous réveillerez pas sous la pluie. Et ce sera la bonne nouvelle de cette météo. Il fera 13 degrés et l'après-midi 13 degrés aussi, mais l'après-midi, il y a de la pluie. Vendredi, il fera entre 10 et 12 degrés. Le ciel sera entrecoupé de quelques averses. Samedi, 9 et 12, entre 9 et 12 degrés au programme pluie, orage et un tout petit peu de soleil. Et ben voilà, la semaine prochaine, bon, je vais vous passer le détail parce que je sens que ça va vous miner. On prend les mêmes et on recommence. Voilà.
Il n'y a pas un jour de soleil, non ?
Bah après, pour... non.
Vas-y là.
Non. Bah après, pour les semaines prochaines, peut-être on peut espérer, parce que c'est pas très précis. Mais sinon, ouais, c'est pas.
Et franchement, ils n'auront pas intérêt de nous faire chier cet été en disant que c'est la sécheresse, quoi.
Ouais, ils vont dire qu'il y a trop de pluie, que ça a développé les champignons, nanana.
Ouais, sauf que là, c'est des années qu'ils disent que c'est la sécheresse, là, ils ne pourront pas se plaindre de ça.
C'est vrai.
Et c'est l'heure de notre agenda et je vais le commencer en parlant d'une Vélorussion qui aura lieu, bah, pas tout de suite, le samedi 15 juin, et on l'annonce maintenant pour que ça vous donne l'idée d'y aller. Et du coup, comme en ce moment c'est plutôt la mode des ZAD et autres rassemblements et contre des gros projets inutiles, ça va, donc c'est contre la relance de l'autoroute A51 dans le Trièves, du coup c'est pas très loin de Grenoble, dans l'Isère, et donc une Vélorussion qui va rouler sur ce projet d'autoroute A51. Pour contacter les gens, c'est stopa51 stopa51@laposte.net et plus d'infos sur le site www.stopa51.org. Et du coup, l'idée, c'est de faire donc toute une journée avec des rassemblements, un départ dans l'après-midi de la Vélorussion depuis le col du Faux, et 18-19h, arrivé au campus universitaire de Grenoble, avec plein de surprises ce soir-là, j'imagine des concerts, etc. Voilà.
Alors, comme il pleut, moi, je vous ai cherché des activités d'intérieur. Non, mais en fait, la semaine passée, on vous avait proposé plein de films à aller voir. Et du coup, peut-être que vous étiez allé voir Mémoire d'un saccage de Fernando Ezequiel Solanas à la Plume Noire, vendredi dernier. Si vous y êtes allé, vous pouvez... vendredi qui vient, le 24 mai, aller voir la suite, qui s'appelle, un film qui s'appelle La dignité du peuple. Et en fait, ce film, il montre les conséquences de la crise sur la population. Et il dépeint par petites touches à travers tout le pays le portrait d'hommes et de femmes qui ont su relever la tête et combattre pour retrouver, malgré la faim et la misère, leur dignité. C'est un film sur le pouvoir de la résistance sociale et sur la volonté d'un peuple blessé qui cherche à reconstruire son pays. Donc ça se passe à la Confédération des groupes anarchistes, à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement. C'est à 20h, ça commence bien à 20h30 pile et c'est prix libre. Et sinon, le vendredi soir, si vous préférez manger plutôt que regarder un film, vous pouvez aller à l'Atelier des Canulars qui organise un repas de soutien aux inculpés de la lutte Notav. Donc en fait, c'est organisé par le collectif Notav 69 qui invite à partager un repas prix libre en soutien aux camarades italiens qui ont été inculpés pendant le mouvement contre la ligne TGV Lyon-Turin. Donc ces dernières années, il y a des dizaines de personnes qui ont été arrêtées au cours de différentes opérations policières dans toute l'Italie. Et le 26 janvier 2012, à la suite des grosses manifestations du 27 juin et du 3 juillet 2011, il y a une quarantaine de personnes qui ont été raflées chez elles et un certain nombre ont été placées en détention préventive. Donc depuis le 21 novembre 2012, il y a 52 personnes qui sont jugées dans ce qui apparaît comme un véritable procès du mouvement Notav. Après que la salle d'audience ait été plusieurs fois occupée par des manifestants Notav, le procès a été délocalisé dans un bunker adossé à la prison de Turin. Et cette salle, elle a par le passé été utilisée lors de procès anti-mafia ou alors pour juger des brigadistes des années 70-80. Et avec cette opération judiciaire, les Protav, ils essayent désespérément de faire vivre cette distinction entre violents et pacifistes et de faire passer le mouvement Notav pour un petit mouvement d'extrémistes sans pitié et sans assise populaire. La fin du procès, elle est prévue pour cet été et certaines personnes qui sont inculpées risquent jusqu'à 9 ans de prison. Donc, ce que nous dit ce collectif Notav, c'est que quand la stratégie judiciaire, elle consiste à isoler certains, notre réponse, elle doit être de faire bloc. Et ils nous invitent à venir manger et échanger autour d'un verre à l'Atelier des Canulars, 92 rue Montesquieu, dans le 7e, 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement, vendredi. Le 25 mai, si... Il pleut samedi après-midi, le 25 mai ?
Oui.
Ah. Il y a une manifestation, alors il faudra prendre des kawaii et des parapluies parce que...
Peut-être que c'est entre deux accalmies.
Et voilà, et il faut espérer parce qu'il y a le RESF qui appelle à une manif pour la régularisation des sans-papiers, qui nous dit un an après pour les sans-papiers, quel changement ? La gauche expulse à tout Valls chausse les bottes de Guéant et valide les politiques antérieures. Donc c'est samedi 25 à 14h, place du Pont. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en novembre, il y a une circulaire dite de régularisation qui a régularisé juste pas grand monde parce que les critères, ils sont trop restrictifs et souvent flous, qu'ils ignorent les jeunes majeurs ou les travailleurs sans papier. Et qu'en mars, par contre, il y a une circulaire sans aucun flou cette fois et qui a détaillé comment expulser le plus possible et le plus efficacement possible. Et donc du coup vous pouvez aller lire tout ce flyer sur le site Rébellion par exemple et vous pouvez vous rendre à la manifestation à 14h qui va partir de la place Gabriel Péri et qui ira jusqu'à la place des Terreaux. Et vous préférez plutôt passer un samedi à l'abri, vous pouvez toujours aller à la griffe pour rencontrer les gens des jeunes et des adultes qui participent au lycée autogéré qui est à Nantes-Saint-Nazaire, je ne sais plus.
Non, Paris. C'est celui de Paris. Celui de Paris, mais il y en a aussi y en a d'autres en France.
Ouais, et du coup là, c'est les gens qui viennent du lycée autogéré de Paris et qui seront à 15h samedi 25 à la griffe pour présenter un petit peu ce projet.
Ben voilà, c'est la fin du Canu Info.
On vous laisse avec les bandes continues et puis ce sera avec Idée Noire à 20h.
Et puis sinon, ben, comme on a 3 minutes, du moins même on a 10 minutes, mais pour une fois, on peut vous dire que c'est possible de réécouter les Canu Info sur internet pendant toute la semaine sur les blogs. Donc c'est sur le site de Canu Info, il fallait sur l'onglet blog sélectionner Canu Info et puis vous avez ceux de tous les autres jours aussi de la semaine. Et puis c'est possible d'écouter sur Rébellion celui du jour pendant toute la journée de demain. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, rich to your classroom, speech eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or rose by any other name's not just as sweet. Spit so hard, but I'm smart as the bar. Come through with a Union Jack full of yard.